Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée au prisme du droit avec notre partenaire BFM, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa France. Vous écoutez et vous regardez le 107e épisode de Quid Juris. Et cette semaine, l'actualité, c'est encore Donald Trump, de plus en plus critiqué sur la scène intérieure américaine, critiqué pour cette guerre contre l'Iran, pour les conséquences de cette guerre, évidemment sur le pouvoir d'achat, sur le prix de l'essence à la pompe, pour toutes les conséquences économiques de ce qui se passe évidemment dans le détroit d'Ormuz, critiqué aussi pour les mots prononcés par le président américain. Souvenez-vous, lui qui menaçait de détruire la civilisation iranienne, celui qui demandait, je cite toujours, à ces salopards de Téhéran de lever le blocage du détroit d'Ormuz, plusieurs voix d'ailleurs, y compris dans son propre camp, se sont interrogés sur sa santé mentale. Certains appelant même à sa destitution via le 25e amendement de la Constitution américaine. 80 membres de la Chambre des représentants ont d'ailleurs demandé au vice-président J.D. Vance de destituer Donald Trump. Mais comment fonctionne ce 25e amendement ? Est-ce qu'il est possible de destituer Donald Trump en raison d'une santé mentale supposément défaillante? Pour répondre avec nous, une des meilleures expertes aujourd'hui dans Quid Juris. Bonjour Vanda Master.
Bonjour.
Vous êtes professeure agrégée de droit public à l'Université de Corse, membre associé du Centre de droit public comparé de l'Université Panthéon Assas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Quid Juris et du Club des Juristes. Je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie. D'abord, ce 25e amendement de la Constitution américaine prévoit bien un mécanisme de transfert du pouvoir si le président des États-Unis est jugé inapte. Mais comment ça marche concrètement ?
Alors concrètement, déjà, l'amendement n'a été introduit qu'en 1967. Donc le contexte historique est important suite à l'assassinat de JFK Kennedy. Et il est important de rappeler que l'amendement a quatre sections, si vous voulez, et toutes concernent la vacance du pouvoir. Section 1, c'est si le président décède, meurt ou est destitué. Section 2, c'est si il venait arriver la même chose au vice-président. Et ce qui vous intéresse, ce sont les 3 et 4. 3, c'est le président des États-Unis qui lui-même fait une déclaration sur sa propre inaptitude. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir.
Et on verra que c'est arrivé
et
déjà.
Et c'est arrivé déjà plusieurs fois, absolument, pour quelques heures. Et la section 4, donc, permet là au vice-président et à une majorité des membres de son cabinet de faire une déclaration d'inaptitude.
Alors, c'est là où il faut que vous nous expliquiez. Cette quatrième section du 25e amendement pourrait s'appliquer à Donald Trump. C'est en tout cas ce que demandaient ces 80 parlementaires. Concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors concrètement, la demande, la déclaration d'inaptitude, sans autre précision d'ailleurs sur l'inaptitude, est faite par le vice-président, appuyée par une majorité des membres du cabinet, donc 8 sur 15. La déclaration est envoyée aux deux présidents des deux chambres, de la Chambre des représentants
et du Sénat,
et ça peut s'arrêter là. Et le président ensuite peut faire une contre-lettre, si vous voulez, disant, parce qu'il n'est pas d'accord évidemment avec la déclaration d'inaptitude. Et dans ce cas-là, le vice-président peut donc réitérer, si vous voulez, la demande dans un délai de 4 jours auprès des mêmes présidents. Et suite à quoi, le Congrès a alors 21 jours pour se prononcer l'inaptitude.
On va reprendre tous les éléments que vous venez de donner, parce qu'ils sont nombreux. D'abord, ce cabinet, 15 membres, vous le disiez, qui le compose, ce cabinet ? Le Conseil des ministres, d'une certaine manière ?
Si vous voulez, on ne dit pas ministre aux États-Unis, ce sont des chefs de département exécutif, ce sont des proches du président, qui peut révoquer, comme il le souhaite d'ailleurs, mais dont tout de même, qui doivent quand même être confirmés par le Sénat avant d'entrer en fonction. C'est effectivement une sorte de ministère, mais à resserrer, puisqu'ils ne sont en général jamais plus de 15.
D'accord. Et donc, en l'état, vous avez cité le vice-président, J.D. Vance, en l'occurrence, les 15 membres du cabinet. Donc, ces 16 personnages, c'est tous des proches de Trump.
Totalement.
Donc,
oui.
On a du mal à comprendre comment des proches de Trump, qui doivent leur carrière, leur poste à Donald Trump, pourraient tout à coup décider ensemble à la majorité que ce président est inapte à exercer ses fonctions. Ça paraît un peu contradictoire.
Vous avez raison. C'est contradictoire, non. Disons que c'est un verrou qui est proposé par la Constitution. C'est hautement improbable, évidemment. Surtout que Donald Trump sait s'entourer de personnes qui lui sont très, très proches, y compris au niveau amical. Donc, évidemment, la procédure est... honnêtement, hautement improbable. Malgré des inaptitudes assez évidentes du président sur certains plans.
J'imagine que si J.D. Vance prenait une telle initiative, bah pour le coup, ce serait considéré comme une trahison. Qu'il ait d'ailleurs raison ou tort.
Absolument. Après, attention, aux États-Unis, les trahisons, c'est comme en France, il y en a aussi en politique.
Ah, c'est pas propre à la France.
Non, c'est pas propre à la France. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais lors de la dernière mise en accusation, donc avec la voix, on va dire, classique, l'impeachment, il y a quand même 7 républicains qui ont voté pour la destitution de Trump. Vous voyez, donc, il peut y avoir aussi des prises de conscience. Et puis, vous savez, Donald Trump est formellement vulgaire, inconsistant substantiellement, mais peut-être que pour certains, il n'a pas encore commis l'irréparable. Donc, peut-être que ce jour-là, pourquoi pas, Vance aura la pression aussi, comme vous l'avez dit, de certains congressmen.
Alors, on a bien compris le processus. Maintenant, il faut qu'on définisse ensemble ce que l'on entend par inaptitude. Est-ce que c'est physique ou mental? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il faut qu'il décrète, d'ailleurs? Est-ce qu'il faut un avis médical? Ça se passe comment?
La Constitution ne dit rien à ce sujet. Elle précise juste que le président, donc, enfin, que la déclaration peut être faite s'il est inapte à exercer les pouvoirs et responsabilités de sa fonction. Mais effectivement, quand on interprète, il est assez évident que cela concerne une inaptitude physique ou mentale. Pourquoi pas psychique, psychologique ou psychiatrique, puisqu'au départ, l'amendement a été pensé, notamment quand il y a eu l'assassinat de Kennedy, l'entourage s'est dit, et s'il n'était pas mort, s'il avait été dans un état où vraiment il était physiquement ou même cérébralement incapable de gouverner. Donc non, la Constitution est silencieuse, c'est de l'interprétation, mais on se doute bien que ça serait de tous ces ressorts-là.
Une fois que ces critères sont posés, il faut encore que les 2/3 de la Chambre des représentants et les 2/3 des membres du Sénat acceptent cette déclaration d'inaptitude. Et là aussi, je repose la même question, mais à l'heure où on se parle, Donald Trump à la majorité dans les deux chambres, ça paraît hautement improbable, même dans l'hypothèse où le vice-président et son cabinet décideraient d'enclencher cette procédure, hautement improbable que les deux chambres la valident.
Non, absolument. Même si il y avait la contre-déclaration de Trump et ensuite la réitération de la demande de la déclaration du vice-président. Effectivement, après, il faut que ce soit voté par les 2/3 dans les deux chambres. Et en ce moment, c'est mathématiquement impossible.
Alors, ce sont les démocrates qui ont poussé pour aller vers cette procédure. Je rappelle que les démocrates à la Chambre des représentants, ils sont 215 sur 435, donc ils sont nettement minoritaires. Et au Sénat, ils sont 45 sur 100. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les démocrates demandent l'ouverture de cette procédure, alors que bizarrement, ils ne l'ont pas fait pour Joe Biden, dont les problèmes cognitifs étaient connus du monde entier, dont j'imagine, a fortiori, de ses proches et de ceux qui, membres du cabinet, travaillaient à ses côtés.
Oui, absolument. Mais là, ce n'était pas du tout le même contexte. Mais vous savez, pour faire un autre parallèle, pour la destitution, cette fois classique, donc je sors volontairement du 25e amendement, souvenez-vous de l'après 11 septembre, quand George W. Bush ment et hontement en disant qu'il a la preuve qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, on n'a jamais même pas mis en accusation.
Fait et la début fameuse fiole présentée devant l'Assemblée générale
absolument,
de l'ONU.
Absolument, alors qu'il y avait mais un nombre considérable d'infractions d'ordre pénal qui auraient pu déclencher la procédure de l'impeachment classique cette fois.
Alors, vous l'avez dit aussi, parmi les critères, imaginons, on continue le scénario de fiction, ça va quand même au bout, mais le président, lui, peut encore contester cette inaptitude et dire bah, pas du tout, et vous l'avez dit, dans ce cas-là, tout s'annule, il redevient automatiquement président, et il a 4 jours pour le faire, c'est ça ?
C'est ça, c'est un peu comme une partie de carte de bleu de contrée, c'est-à-dire le vice-président fait une annonce, mais le président peut la contrer et après le vice-président peut la surcontrer en ayant donc à ce moment-là 4 jours pour réitérer la demande et puis le Congrès a ensuite 21 jours pour la voter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux deux tiers.
Et ça repasse à nouveau une deuxième fois devant la Chambre des représentants.
Oui.
Bon, on a compris en vous écoutant qu'il y a quand même très peu de chances que cette procédure puisse un jour aller à son terme. En tout cas, dans les circonstances actuelles. D'ailleurs, un mot, les démocrates ont imaginé cette procédure après les propos tenus par Donald Trump, notamment sur l'Iran. Je citais un certain nombre de ses propos en introduction. C'est suffisant pour qualifier l'inaptitude mentale, psychique, psychiatrique du président des États-Unis ?
Honnêtement, vous avez tout à fait raison de le relever. Des insultes, les plus odieuses soient-elles, ne sont pas passibles, en tout cas, d'infractions, et encore moins de prouver une inaptitude totale. Donc ça, c'est évident. Mais c'est aussi politiquement une arme pour mettre la pression, en fait, sur Donald Trump. Et vous savez, les premiers politiques et universitaires à réclamer le déclenchement du 25e amendement, donc section 4 à l'encontre de Trump, ça a commencé déjà pendant les primaires de 2016.
Donc avant son premier mandat.
Avant son premier mandat.
Mais sur quel critère ?
Pendant qu'il est en campagne. Sur le même, c'est-à-dire qu'il y a très exactement en 2017 un livre qui est paru qui s'appelait The Dangerous Case of Donald Trump, et c'était 27 médecins, psychiatres, psychanalystes qui, juste en observant ses gestes à l'époque où il n'était pas aussi grossier qu'aujourd'hui en plus, en tout cas pas en tant que président, concluait à un état psychique assez problématique. Et c'était en plus la même période où il y avait eu des tribunes dans le New York Times de personnes qui anonymement travaillaient avec lui et qui écrivaient noir sur blanc que c'était hautement problématique de maintenir cet homme. Là, c'était une fois qu'il était président à la Maison-Blanche.
Alors, on a vu avec vous qu'il était quand même hautement improbable que cette procédure puisse un jour aller à son terme. Donc, on comprend bien que tout ça, c'est de l'agitation politique sur la scène intérieure américaine. Cette section 4 du 25e amendement n'a jamais été utilisée, en réalité.
Non, jamais. Comme je vous l'ai dit déjà,
si,
envisager...
Si, une fois, mais c'était dans la série House of Cards, je crois.
C'est ça, voilà.
C'est ça.
Oui, oui.
Mais en réalité, jamais.
Jamais, mais ceci dit, comme je vous le disais, donc en 2016, les intellectuels, les universitaires y pensaient déjà. Et ensuite aussi, après l'assaut du Capitole, il y a des membres de la commission judiciaire de la Chambre de représentants qui ont émis cette hypothèse-là, alors que nous sommes le 6 janvier à l'époque, souvenez-vous, et qu'il y avait l'Inauguration Day pour Biden quelques jours après. Mais entre les deux, mes étudiants, je me souviens, me disaient, mais enfin, ils ne vont pas lancer maintenant une destitution classique, impeachment, et ou le 25e amendement, alors qu'il ne lui reste plus que 13 jours. Mais je leur expliquais, mais parce que les gens, en tout cas les opposants, ont peur de ce qu'il est capable de faire en 13 jours. L'assaut du Capitole, c'était quand même une incitation à la violence évidente.
Absolument. Mais alors, le 25e amendement, dans sa quatrième section, n'a jamais été utilisé. Mais en revanche, et vous les avez cités, section 1, section 2 et 3, là, on a des exemples par le
oui,
passé.
Oui, absolument. Bon, section 1, on sait que 8 présidents des États-Unis sont morts en cours de mandat, donc 4 assassinés, donc la section 1. Section 2 aussi, on avait un vice-président qui avait démissionné en 73, lui-même remplacé par Gerald Ford, qui lui-même après a pris la succession de Nixon. Donc là, on est déjà dans le 25e amendement. Et le troisième que vous relevez, c'était très temporaire, une opération de Reagan pendant 8 heures. Il avait donc déclaré son inaptitude au profit de son vice-président, qui était George W. Bush, père à l'époque. Ensuite, le fils, George W. Bush Jr., a fait deux lettres, assez intéressantes d'ailleurs, parce que lui, il n'y a pas eu...
2002 et 2007.
2002 hein. et 2007, pour deux interventions chirurgicales, c'est, comme on dit en Amérique, « just in case ». Si jamais il doit m'arriver malheur, je fais une déclaration d'inaptitude au profit de Dick Cheney et Biden aussi pour un contrôle médical de routine. Mais c'est assez intéressant parce que pendant 1h25, une femme a été investie des pouvoirs présidentiels.
C'est la seule fois d'ailleurs.
C'est la seule fois, Kamala Harris.
Vous avez en partie répondu, mais si on comprend bien, au-delà de la complexité de la procédure, au-delà du problème de déloyauté que ça supposerait, et surtout, on n'imagine pas bien sur quelle base politique ou médicale ses opposants pourraient s'appuyer pour demander l'ouverture d'une telle procédure.
Absolument. Et vraiment, c'est... On se demande même pourquoi tant de bruit, si vous voulez, parce qu'il est évident que ça n'aboutira pas. Et il y a plus de motifs de droit pénal. Trump est quand même entouré par les affaires, il a été condamné aussi au pénal, vous voyez. Donc ce n'est pas que sulfureux, il y a des motifs, il me semble, plus sérieux pour déclencher un impeachment, sauf que, comme vous l'avez rappelé, faute de la majorité des deux tiers dans les deux chambres, il n'a pas de chance d'être destitué, enfin pas de chance, pas de risque pour lui en tout cas.
Alors expliquez-nous, et on aura fini la pédagogie de tout ça, sur quels critères l'impeachment pourrait être déclenché le concernant. Là, pour le coup, c'est déjà arrivé dans l'histoire américaine,
oui.
À plusieurs reprises, je crois.
Plusieurs fois et deux à son encontre. Hein.
Absolument.
Il n'y en a pas beaucoup, mais Trump cumule les records, oui.
Alors là, racontez-nous comment cette procédure d'impeachment, on ne parle plus de la section 4 du 25e amendement, on est sur un autre terrain juridique, comment ça fonctionne ?
En fait, c'est une mise en jeu de la responsabilité pénale, parce que parfois, quand on ne connaît pas le système américain, ça semble tellement politique, mais en fait, c'est l'irresponsabilité politique qui est un peu masquée par les motifs de droit pénal.
Donc là, c'est la trahison, la corruption, un
et
fait
autres délits
pénal
majeurs. Exactement.
Majeur.
Trahison,
voilà.
Corruption et autres délits majeurs, dit la Constitution. Donc c'est la Chambre des représentants qui doit voter une mise en accusation, majorité plutôt simple, pour des infractions donc de droit pénal. Et ensuite, si la mise en accusation est votée, alors un procès s'ouvre devant le Sénat, qui pour l'occasion est présidé par le Chief Justice, et là, effectivement, encore une majorité très qualifiée pour le destituer.
Les deux tiers
aussi.
Ça a été
déclenché, absolument. Ça a été déclenché pour Andrew Johnson, juste après la guerre de sécession. Il a été acquitté au Sénat une voix près. Ensuite, Bill Clinton en 1998. Là aussi, bon, en général, les infractions sont, par exemple, pour Bill Clinton, outrage au Congrès, parjure. Bon, il a été aussi acquitté au Sénat. Et donc ensuite, Donald Trump, deux fois, 2019. Abus de droit et aussi entrave aux travaux du Congrès. Et puis, plus dernièrement, en 2021, et juste, il y en a une que je n'ai pas citée volontairement, parce qu'en fait, des membres ont simplement recommandé la mise en accusation de Nixon après le scandale du Watergate pour abus de droit, outrage au Congrès, mais il a démissionné avant. Donc ça, ce sont les cas historiques. Et Trump, donc deux fois, 2019, à l'époque de l'interférence de puissance étrangère pendant la campagne, et ça n'a pas abouti non plus, mais ça a quand même été jusque devant le Sénat. Et donc, ce moment très particulier, 2021, donc il est à quelques jours de quitter la Maison-Blanche.
Pour 12 ou 13 jours.
Et là, exactement, pour incitation à la violence. Alors, et là aussi, procès quand même, il a quand même été deux fois jusqu'au Sénat. Hein,
donc
et acquitté à chaque fois.
Je vais le dire avec mes mots, mais Donald Trump, c'est une bête politique. Quand on échappe deux fois à l'impeachment, voit mal comment cette procédure du 25e amendement pourrait fonctionner.
Absolument.
Mais tous ses opposants, eux, bah, ils se posent la question exactement de la même manière, en se disant, bah, dans une démocratie qui est de plus en plus illibérale, ça commence à devenir très compliqué d'attaquer Donald Trump. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Donald Trump est-il intouchable ? Laurent Neumann reçoit la professeure Wanda Mastor.
Wanda Mastor, on a parlé de ce 25e amendement, de cette procédure d'impeachment, mais on voit bien que les opposants de Donald Trump se demandent par quels moyens ils pourraient empêcher Donald Trump d'agir d'une certaine manière à sa guise. Et en réalité, ça pose le fonctionnement démocratique des États-Unis. Est-ce qu'on est rentré dans une démocratie illibérale ? Est-ce qu'il y a encore des contre-pouvoirs pour empêcher Donald Trump ? Je vais le dire autrement, est-ce qu'il est intouchable, Donald Trump ?
Non, personne n'est. No one is above the law. C'est un dicton auquel sont très très attachés les Américains.
Personne n'est au-dessus de la loi.
Exactement. Il est irresponsable, par exemple politiquement, mais il n'y a pas d'impunité non plus, si vous voulez. Bon, après, je suis américaniste, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que j'aime ce pays, j'aime son fonctionnement malgré tout. Et les contre-pouvoirs existent toujours. Il y a le pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire n'est pas que dans les mains de la Cour suprême fédérale. Il y a les médias. Énormément. Si vous allez sur le New York Times ou Washington Post, vous pouvez même cliquer en direct, ils actualisent toutes les injures que prononce Trump à l'égard de catégories. Donc vous voyez, donc les démocrates, la presse, la liberté de la presse, les journalistes, les associations de défense de liberté, etc. Et puis il faut aussi compter sur les États fédérés, hein, c'est un État fédéral, les États-Unis.
Mais c'est la question que je vais vous poser. On a presque l'impression que le dernier vrai contre-pouvoir, c'est le fédéralisme américain. C'est-à-dire en fait les États ou les républicains et Donald Trump n'ont pas la majorité.
Aussi, oui, il y a le fédéralisme est l'un des verrous de ces checks and balances, c'est comme on dit, c'est-à-dire les freins et contrepoids qui fascinaient déjà Tocqueville. Hein, ce système, les pouvoirs ne sont pas séparés en réalité. Hein. Tout est imbriqué, tout fonctionne ainsi. Puis au contre-pouvoir qu'on a évoqué, il faut aussi ajouter les intellectuels, les universitaires, les grands patrons. Quand la Cour suprême a décidé que l'avortement ne serait plus protégé au niveau fédéral, les grands patrons de Apple, Microsoft, Levi Strauss ont dit « même nous prendrons en charge les frais des avortements de nos employés dans d'autres États. Enfin, vous voyez, tout ça existe quand même, il faut en avoir conscience.
Mais j'ai lu récemment, et je suis sûr que vous l'avez fait, un article du Financial Times, un article qui était signé par John Byrne Murdoch, qui comparait plusieurs pays autour d'une dizaine de variables. Dans ces variables, il y avait l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Cour suprême est quand même à la main de Donald Trump. L'indépendance de la Banque centrale, on a vu comment il a essayé de décapiter la Banque centrale, le recours à la force publique contre les civils, et on a vu ce qui s'est passé avec sa police de l'immigration, ICE en l'occurrence, le respect des libertés civiles et des droits de l'homme. Certains s'interrogent vraiment sur ses contre-pouvoirs. On a l'impression qu'il a pris la main sur tout ça. Vous citiez les médias, les conférences de presse à la Maison-Blanche, ce sont des journalistes qui désormais sont triés sur le volet.
Tout à fait. Non, mais tout ça est une réalité, hein. Il ne faut surtout pas mésestimer ça. Mais encore une fois, il faut aussi avoir foi dans le peuple américain qui parce que, comment vous dire, c'est une quand même vraie démocratie dans le sens où, vous savez, cette première phrase de la Constitution, « We the people », c'est la phrase d'où le pays est né et où le pays va toujours. Donc, à un moment donné, quand même, malgré tout, les élections, et pas seulement les midterms elections qui vont arriver bientôt, sont là pour redonner en tout cas au peuple le pouvoir. Et je dis pas qu'il va le faire très bien, mais je dis que dans tout ce que vous avez cité, par exemple le pouvoir judiciaire, oui, la Cour suprême en ce moment est à majorité conservatrice, mais elle peut aussi quand même considérablement empêcher, j'emploie volontairement un mot américain, l'exécutif aussi, comme le Congrès aussi peut l'empêcher.
Alors, enfin, prenons l'exemple de la Cour suprême avec les droits de douane. Oui. Donald Trump a beaucoup misé sur ces fameux tarifs, et puis la Cour suprême les a retoqués. C'était il y a quand même plusieurs mois maintenant. Oui, oui. Ils deviennent quoi d'ailleurs, ces droits de douane? Ils vont être remboursés, Donald Trump? Les États-Unis vont devoir rembourser les 100 ou 200 milliards de dollars qui ont déjà été perçus?
Absolument. Alors, c'est un très bon exemple, même si il y a un autre exemple de la semaine dernière, qui est un contre-exemple, la Cour suprême lui a infligé un camouflet énorme, camouflet politique, parce qu'il ne s'attendait pas aussi à ce que les trois juges qui l'aient nommé, mais ça c'est très courant dans l'histoire des États-Unis, mais camouflet juridique aussi, parce que l'arrêt dit à un moment donné, le gouvernement lit mal la loi. Donc oui, en gros, la Cour suprême est venue dire au président, donc décider de changer comme ça les droits de douane, premièrement, ça viole la Constitution, deuxièmement, vous vous fondez sur une loi de 1970, 17, invoquant l'urgence nationale. Mais premièrement, bon, un simple déficit n'est pas non plus l'urgence nationale. Et secondement, dans ce cas-là, on fait une délégation, nous, au Congrès, d'accord, et qui ne doit pas être unilatérale. Donc, vraiment, la claque est énorme. Et deuxième claque, pardonnez-moi pour le langage un peu populaire, mais c'est pour qu'on comprenne bien, vous l'avez dit, c'est la Court of International Trade, qu'on peut traduire par tribunal de commerce, qui a dit, en plus, il faut rembourser. Et donc, en gros, tous les...
Et là, il y a
les
une plateforme qui est ouverte,
absolument, parce
où
que
toutes les entreprises du monde qui ont payé des tarifs peuvent aller réclamer leurs droits.
Oui, ils ont droit. Tous ceux qui ont été illégalement taxés ont droit au bénéfice, si vous voulez, de cet arrêt de la Cour suprême. Et alors, l'administration a tout de suite répondu à l'ordonnance. L'ordonnance a été rendue en mars. On ne peut pas, parce qu'on parle quand même de plus de 53 millions de droits de douane. Et donc, il y a tout un calcul qui est très compliqué. D'entreprises, absolument. Oui, les importateurs qui réclament...
Parce qu'on parle de près de 200 milliards de dollars qui ont
été perçus. En dollars, ça fait ça. Oui, tout à fait. Et donc, l'administration a répondu qu'elle ne pouvait pas exécuter l'ordonnance. Donc, il y a tout un calcul qui a été mis en place, de calcul de liquidation, puis reliquidation, avec un peu de remboursement différé. Mais oui, mais le camouflet est vraiment énorme.
Hein. Alors, je vous donne le point pour le contre-pouvoir judiciaire. Vous avez raison, la Cour suprême, ils n'ont pas les mêmes problèmes que J.D. Vance. Ils peuvent faire preuve, entre guillemets, de déloyauté. Puis vous avez cité la démocratie. Je reprends vos termes. Vous faites confiance au peuple américain. Sauf qu'il y a des midterms bientôt, au mois de novembre, ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Et alors, j'ai vu que Donald Trump voulait faire voter un Save America Act. Alors, il dit que c'est pour augmenter la sécurité des élections, hein, je mets ces propos entre guillemets. Le problème, c'est que ça risque de priver des millions d'Américains du droit de vote. Pourquoi ? Parce qu'il dit, maintenant, pour aller voter, il faudra pouvoir prouver son identité. Le problème, aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. Et il y a des millions d'Américains qui n'ont pas de documents pour aller prouver leur identité.
Oui.
Et parmi eux, essentiellement des femmes et des Américains issus des minorités immigrées.
Bien sûr.
Donc, ça risque d'être un gros problème pour l'élection et donc un problème démocratique.
Tout à fait. Alors, au moment où nous parlons, le Sénat l'a rejeté. Mais ceci dit, il faut l'évoquer. Parce que ça, c'est typique de la politique de Trump. Et puis, bon, quand Trump n'arrive pas à passer par la porte, il passe par la fenêtre. Donc, il va revenir sur le tapis. Oui, puis surtout, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de carte d'identité nationale, que moins de la moitié des Américains ont un passeport. Et qu'en réalité, il faut aussi se rendre compte que, vu l'étendue du pays, Vous devez en plus, il y avait une autre condition formelle, aller dans un bureau de vote pour prouver sa nationalité. Ça ne pouvait pas être fait par correspondance, ce qui veut dire pour certains Américains, plus de 5 heures de voiture ou d'avion, et en général, les pauvres sont les Noirs américains, voyez, d'où des discriminations
donc
raciales.
Donc c'était une loi très ciblée, en fait.
Ah, mais c'était complètement, complètement inconstitutionnel et dramatique. Et les femmes, vous aviez raison, puisque les femmes mariées devaient prouver leur statut avant le mariage, et les Noirs nés avant 1950 aussi, pour aller chercher des actes de naissance ou de naturalisation, cela aurait été extrêmement compliqué.
Donc c'est intéressant parce qu'à vous écouter, on comprend bien que Donald Trump essaye de contourner la loi, essaye de contourner la Constitution, oui. Mais il y a encore des freins qui fonctionnent. On a cité l'exemple de la Cour suprême. Là, pour le coup,
le
cette
Congrès
loi
et le Sénat.
Où Donald Trump est majoritaire au Congrès, cette Tout loi, a, pour le moment, était retoquée.
Tout à fait. Il n'avait pas assez de voix au Sénat. Donc oui, vous voyez, exemple typique de contre-pouvoir qui fonctionne quand même de temps en temps.
Alors Donald Trump, dans ces cas-là, il dit bah, « c'est pas grave, moi je vais changer la Constitution
oui. ».
Et alors vous vous souvenez de tous ces débats sur est-ce qu'il pourrait briguer un troisième mandat. Et là, vous allez m'expliquer que depuis des années, c'est absolument impossible parce que c'est deux mandats et pas un de plus.
Absolument. Historiquement, il y avait une tradition en vertu de laquelle un président ne se présentait jamais plus de deux fois. Puis une coutume contra legem, c'est-à-dire contraire à l'esprit de la Constitution, est née avec Franklin Roosevelt. Mais il faut
lui
pas
a
comparer.
Fait quatre mandats.
Il en a fait quatre.
Le quatrième a été écourté parce
exactement,
qu'il est mort
exactement.
Très tôt.
Mais les quatre étaient un peu logiques. Il commence les États-Unis, c'est les raisins de la colère de Steinbeck. Hein. Il
1932,
exactement,
le New Deal.
Exactement, le New Deal, puis le Welfare State. Donc, il fallait deux mandats et puis la guerre, si vous voulez. Et la Constitution a été révisée en 1951. Pour revenir à la coutume, on ne fait pas plus de deux mandats. Et honnêtement, bon courage à Donald Trump pour réviser la Constitution.
C'est alors là, il faut que vous nous expliquiez pourquoi c'est compliqué de changer la Constitution.
Parce que c'est l'une des constitutions les plus compliquées à réviser au monde. Il faut d'abord le vote des deux tiers et à la Chambre des représentants et au Sénat, et ensuite une ratification des trois quarts des États. C'est quand même 38 sur 50, ça fait beaucoup.
Donc c'est pas possible.
Hautement improbable aussi. Je alors, réponds la même chose qu'au début avec le 25e amendement.
Alors certains ont dit, bon très bien, il ne peut pas changer la Constitution, il ne pourra pas se représenter pour un troisième mandat. Certains ont dit, bah, c'est extrêmement simple. On va faire élire J.D. Vance, je serai son vice-président, et puis en cours de mandat, il démissionnera et je prendrai sa place. Et là aussi, je suis sûr que vous allez me dire non, ça n'est pas possible.
Non,
mais pourquoi ça n'est pas possible?
On pense à Poutine qui a fait un peu ça pour être Premier ministre.
Avec Medvedev.
Parce que c'est le 12e amendement qui aligne, si vous voulez, le statut d'inéligibilité du président sur celui du vice-président et inversement. Donc là aussi, c'est hautement improbable.
Donc c'est absolument infaisable.
Mais tout ça, en fait, prouve que la Constitution, quand même, tient bon. Parce que vous voyez, même si... Enfin, elle tient bon. Évidemment, le 25e amendement, certains aimeraient le voir réussir. Mais on ne fait pas n'importe quoi avec la Constitution. Et même Trump, qui, effectivement, la grignote, la violente beaucoup, quand il va trop loin, tout de même, de temps en temps, parce que là, il y a un arrêt récent de la Cour suprême des États-Unis la semaine dernière sur le découpage électoral, malheureusement, qui...
Qui pose problème, notamment
pose
dans les États
problème.
Démocrates.
Exactement, oui.
Alors, je voudrais qu'on prenne un dernier exemple d'actualité. Évidemment, la guerre au Moyen-Orient. Tout le monde a compris que Donald Trump avait déclenché cette opération militaire sans demander l'avis du Congrès. Il y a quelques jours, il est allé demander l'avis du Congrès, mais en disant « Ah, c'est fini, épique furie, furie épique, cette opération militaire contre l'Iran, c'est terminé. Donc, à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de vous demander votre avis. » Ça aussi, c'est une façon pour l'exécutif de piétiner le législatif.
Ah ben oui, aussi, en principe, c'est le Congrès qui déclare la guerre. Alors lui, il est commandant en chef des armées, mais il y a aussi des délais de 60 jours. Mais si vous voulez, alors c'est pas du tout pour excuser Trump que je vous dis ça. Mais en France, on s'intéresse beaucoup au droit américain, surtout depuis la présidence Trump, parce qu'elle est tellement sulfureuse, tellement excessive, si vous voulez. Mais George W. Bush a déclaré la guerre à un ennemi non identifié, je vous le rappelle, la terreur.
Absolument.
La terreur, il n'y avait pas d'ennemis, il y avait en plus cette déclaration de guerre, un problème unilatéral, violant le droit international, c'est doublé d'une guerre sur le terrain. Donc voilà, malheureusement...
Et encore, George Bush, lui, avait réussi à rallier un certain
tout
nombre de pays dans une coalition.
Oui.
Tout le monde, la France.
Je parlais des congressmen,
ouais,
tous
ça.
Sauf un sénateur qui est un peu
mais
un
surtout
héros aux
États-Unis. Des pays étrangers.
Tout
là, Donald Trump, avec Israël, est allé faire la guerre contre l'Iran avec aucun
tout
de ses
seul.
Alliés.
Un petit peu tout seul.
Y compris sans demander l'avis de ses alliés de l'OTAN.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, il l'a fait. Si jamais il devait relancer les hostilités contre l'Iran, parce que les négociations n'aboutiraient pas, parce que l'Iran refuserait d'interrompre le nucléaire militaire, parce que l'Iran refuserait de libérer le détroit d'Ormuz, est-ce que du coup, le compteur de ces 60 jours repart à zéro, dès lors qu'il est allé devant le Congrès, ou est-ce que ça repart au jour du cessez-le-feu, c'est-à-dire une quarantaine de jours?
Ça va vraiment dépendre des débats au sein du Congrès. C'est assez artificiel de pouvoir l'imaginer comme ça, mais il se débrouillera de toute façon pour faire repartir à chaque fois de nouveau le décompte. Et malheureusement, il bénéficie quand même d'un soutien politique qui fera que... Parce qu'en réalité, là, on est déjà un peu hors la Constitution, vous comprenez, depuis le début. Et donc, effectivement, il malmène grandement la Constitution, y compris sur ce point qui est si quand même important et de retombée internationale.
Alors, dernier point, c'est peut-être pas la question la plus facile, mais c'est la dernière. Je vais vous demander de faire un tout petit peu de prospective. Il y a des élections de mid-term au mois de novembre. Pour le moment, Donald Trump est au fin fond des sondages. Il est très critiqué par les Américains, y compris par une partie de sa base MAGA pour cette guerre en Iran. Que se passe-t-il si, au mois de novembre, il perd la majorité et à la Chambre des représentants et au Sénat? Il y a une expression, je crois, en anglais, on parle de président canard boiteux. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire tout à coup que tout ce qu'il se permet depuis le début de son mandat, il serait entravé, empêché d'agir?
Non, pas vraiment en réalité, parce que dans l'histoire des États-Unis, les présidents perdent. Dans la plupart des cas, leur majorité aux midterm elections. Donc, c'est extrêmement courant qu'un président, quel qu'il soit, même populaire, c'était le cas de Bill Clinton, par exemple, perd les midterm elections. Donc, c'est pas ça non plus qui va l'arrêter, vous voyez. Ça va effectivement, on pourrait se dire, mais tout ce qu'elle vient de dire, donc là, la majorité au Congrès, il la perd, donc peut-être qu'un impeachment peut-être déclenché, etc. Ça peut être à suivre. Mais le problème, c'est que là, avant de parler des élections, il faut parler de circonscription. Et le redécoupage qui a, par exemple, la Cour suprême, je vous le disais tout à l'heure, vient de déclarer inconstitutionnel un nouveau découpage électoral en Louisiane, qui avait pour conséquence de favoriser les minorités, la représentation des minorités. Et malheureusement, la Cour suprême l'a déclaré inconstitutionnel. Bon, sous un motif un peu pernicieux, c'est intentionnellement discriminatoire. Bon, et ça, malheureusement, si ça continue, voilà, il pourrait gagner la partie avant même les élections grâce à ces questions de découpage électoraux en réalité.
Donc, tous ceux qui, à la lumière des sondages, prévoient déjà une défaite électorale de Donald Trump en novembre prochain, c'est pas aussi certain que ça.
Ah non, c'est pas bon. Déjà, les sondages, il faut toujours s'en méfier, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis,
ils sont moins fiables que chez nous.
Non, mais par exemple, on dit beaucoup la Cour suprême, puisqu'elle est conservatrice, alors elle va aller dans tel ou tel sens. L'histoire a toujours montré qu'il faut jamais, jamais faire ce genre de probabilité. Et là, c'est pareil, si vous voulez. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'il est très impopulaire, qu'il risque de perdre les élections de mi-mandat, mais attention à la question des découpages électoraux, parce que là, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce que vient de faire la Cour suprême, elle vient de lever, si vous voulez, un peu le dernier verrou qui protégeait les minorités ethniques, notamment les Afro-Américains, pour les élections, grâce à une loi qui s'appelle le Voting Rights Act de 1977 et qui était vraiment très, très, 1967, pardon, et qui était vraiment très importante. Donc, à suivre.
Je vous lance une invitation. Il va falloir qu'on se revoie pour les midterms. Ce sera au mois de novembre. On aura besoin de vous pour décrypter tout ça. Merci, Vanda Mastor, d'être venue nous expliquer un petit peu les dessous de cette politique américaine, surtout de cette constitution, qui n'est pas toujours simple à suivre pour nous, Français. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris, avec notre partenaire BFM, est disponible sur toutes les plateformes, sur la plateforme du Club des Juristes, évidemment, sur celle de BFM, sur toutes les plateformes de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 108e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.